Vous écoutez RTL.
Les soldes commencent demain à 8h et c'est parti pour 6 semaines. Mais tiens, au fait, quand et comment ces soldes sont-elles nées? Bonjour Pierre Baron.
Bonjour tout le monde.
Vous allez bien?
Pierre,
vous êtes
bien.
Notre consultant en histoire. On est ravis de vous retrouver au micro de la curiosité.
Et moi non.
On se souhaiterait pas la bonne année?
Bah si, on va faire ça.
Tiens. Bah oui, on peut faire ça tout le
bonne
mois,
année,
c'est
Pierre.
Ça.
Bonne
c'est un peu plus court que les soldes, mais très bonne année. Que veut dire le mot solde? Il a une étymologie, une histoire?
C'est papa et maman qui ont eu des enfants. Là, il y a Monsieur Solde. Monsieur Solde, c'est le coupon de tissu qu'on n'a pas vendu.
Ouais.
Et à Madame Solde, c'est le sou ou le sol. C'est de la menu monnaie. Donc, ils ont eu des enfants qui sont les soldes. C'est-à-dire, en gros, on vend les invendus à bas prix.
Ah,
ça a
oui.
à voir avec la solde des militaires aussi?
Ah, oui, c'est la solde des militaires. Alors, c'est un renvoi direct à un salaire qui, depuis les légionnaires de César, est ridiculement faible. Donc, la solde des militaires, hélas, vu les risques qu'ils prennent pour nous, est assez basse. Donc, populairement, on a un mot d'argot du textile, un mot populaire pour dire pas grand-chose en termes de paye, ça fait les soldes.
Et ben voilà, qui a eu l'idée de déstocker comme ça, de brader ses invendus? On vous raconte la naissance des soldes et c'est dans un instant sur RTL.
Les curieux sont sur RTL.
Ce matin-là, sur les grands boulevards parisiens, un événement qu'on attend depuis des mois va commencer.
Denis Bonnec, Thomas Hugues.
Exceptionnellement ce matin, ce temple de la mode a ouvert ses portes plus tôt.
Si votre défaut, c'est la curiosité.
Une frénésie de consommation où tout le monde rêve de dénicher le rabais le plus avantageux.
Alors vous êtes bien sur RTL.
Curiosité suprême, c'est tout de suite sur RTL. Annuelle ou flottante, c'est vrai qu'on a l'impression que les soldes ont toujours existé. Et non, évidemment, et c'est l'histoire géniale que nous raconte notre non moins formidable consultant en histoire, Pierre Baron. Qui a eu l'idée des soldes et en quelle année? Je pose la question directement.
Tac.
Tac.
Allez, direct.
Allez.
C'est un Normand, il s'appelle ouais. Simon Manoury. Et c'est à lui que l'on doit cette idée, pour la première fois, de déstocker massivement. Ça, c'est le problème de tous les entrepreneurs, hein. Quelle que soit l'époque. C'est d'ailleurs étonnant qu'on n'y ait pas pensé plus tôt,
oui.
Parce que, bien sûr, n'importe quel commerçant se retrouve confronté chaque année à ça. Et Simon Manoury, il avait beaucoup, beaucoup d'idées, dont celle-là.
On est en 1830, à
Paris. On est en 1830, il a un magasin qui se trouve pas loin à Paris d'une église qui s'appelle Saint-Thomas d'Aquin, donc il l'appelle au Petit Saint-Thomas. Et c'est dans le 7e arrondissement, et... c'est ce qu'on appelle un magasin de curiosité. Un magasin de curiosité, c'est en
ça,
gros une mercerie un peu étoffée.
Ouais.
Où
franchement,
on vend...
un magasin de curiosité qui s'appelle au Petit Saint-Thomas, c'est prédestiné. Hein.
Et on y vend dire... des petites sidonies.
C'est comme ça que ma maman m'appelait quand j'étais petite, j'étais tellement sage.
Saint-Thomas? Eh ben, vous le méritez
non,
plus.
Non, c'est pas vrai. Alors, pardon Pierre, on dit n'importe quoi et on vous a interrompu.
Je fais pas de document historique là-dessus. Non.
Donc il est dans son magasin de curiosité, notre Simon Manoury, il est normand en 1830 à Paris. Et il se dit quoi? Qu'il lui reste trop d'invendus?
Oui, il constate qu'après, surtout après la période de Noël, période des fêtes, ses rayons sont vides, il n'a pas grand-chose. Donc il se dit, tiens, comment je vais relancer l'affluence dans mon magasin? Une petite échoppe, hein, le Petit Saint-Thomas, indépendamment du prénom illustre du magasin, qu'il deviendra beaucoup plus tard. Mais il est confronté à ça, et donc cette idée des soldes, c'est pas la seule qu'il a, hein. C'est vraiment un génie du commerce, lui, Manoury. Les soldes, c'est lui. La première idée... Les soldes d'été, par exemple, fait des affiches, fait énormément de publicité.
Ah oui.
Alors, j'ai vu les affiches, je t'ai regardé. Hein. Moins 40%, moins 50% sur les vêtements de bain, donc c'est à l'époque, hein, 1830, pas grand-chose, de voyage et de campagne. Alors, ça, génial, vous rendez compte. Donc déjà, ils bradent énormément ce qui n'existait pas. Donc évidemment, ça marche à fond. Et comme ça marche à fond, Sidonie, c'est très, très copié par les commerces aux alentours, évidemment.
Et alors, il y a un homme qui s'appelle Aristide Boussicot, qui va être important aussi dans la popularisation des soldes. Est-ce qu'il travaille pour ce Simon Manoury?
Et deux Normands, deux. Parce que lui aussi est Normand.
D'accord.
Et ils viennent pratiquement de la même région de l'Orne. Boussicot a quitté sa Normandie natale très jeune. À 19 ans, il monte à Paris. Son père était chapelier. Mais ça lui suffit pas. Lui aussi bouillonne d'idées. Et il va devenir chef de rayon dans ce fameux Petit Saint-Thomas,
oui.
Donc aux ordres, si j'ose dire, du patron, Simon Manoury, et il va regarder, il va observer tout ça. Les catalogues de vente par correspondance, la livraison gratuite à partir d'un certain montant d'achat, les soldes, tout ça. Puis alors, bien sûr, il a des idées un peu rocambolesques, Simon Manoury, il n'hésite pas, par exemple, à prendre un âne pour que les gosses, les petits-enfants, montent dessus pour attirer les mères. Donc évidemment, c'est une attraction. C'est mais de tout ça, Boussicot va se souvenir.
Et il a une idée après les fêtes de Noël, je crois. Ouais. Il va créer là aussi un événement, lequel ?
Qui existe toujours, d'ailleurs.
Il va créer le blanc. Il va créer la semaine du blanc. Il va créer la semaine du blanc, mais il ne va pas la créer chez Manori. Il va la créer au bon marché.
Et c'est quoi la semaine du blanc ? Vous nous rappelez ? C'est des réductions sur le linge de maison ?
Tout le linge de maison, il n'y a pas de couleur à l'époque, hein, Sidonie. Ça n'existe pas, la couleur. Les têtes d'oreiller, les draps, les serviettes, les torchons, ne pas confondre. Tout ça, c'est blanc, d'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Les rayons sont vides, encore une fois, les fêtes sont passées, il faut rebooster l'affluence. Et bon, on va faire des remises exceptionnelles sur tout le linge de maison. Et ça, ça marche très bien. Et la belle histoire dit que c'est parce qu'il avait observé ça avec un beau matin neigeux sur Paris. Donc, Paris était couvert de blanc et ça lui avait donné l'idée de mettre au premier étage tout le linge de maison.
Mais Aristide Boussicot, vous l'avez dit déjà, il crée son propre magasin, c'est ça ?
Il ne crée pas exactement, Thomas. Il va s'associer à deux frères, les frères Vido, qui tiennent une toute petite échoppe, une petite échoppe de mercerie, encore une fois, parce que les merciers sont les seuls à pouvoir vendre ce qu'ils ne fabriquent pas.
Et oui, parce que les autres commerçants ne peuvent vendre que ce qu'ils fabriquent.
Et il va s'associer à eux, et eux tiennent vraiment une toute petite boutique qui s'appelle Au Bon Marché. Dans un premier temps, il rentre comme salarié, et très vite, il va devenir associé de ce magasin.
Est-ce que la loi concernant les soldes a beaucoup évolué depuis ces deux siècles ?
Oui, un peu quand même. La première fois que le mot apparaît dans un texte de loi en France, c'est en 1906. On l'a défini, une période limitée dans le temps, avec l'obligation d'une déclaration des stocks. Après, ça va, pour faire simple, pas mal fluctuer parce que l'honnêteté des commerçants n'est pas toujours irréprochable. Donc, ce n'est pas toujours les mêmes vêtements, par exemple, qui sont vendus pendant les stocks que hors des stocks. Donc, ça, c'est déloyal. Et en 2014, me semble-t-il, on met en place ce qu'on appelle les soldes flottants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de période fixe. Mais là aussi, il y a beaucoup d'abus. Et du coup, on est obligé de revenir à une période comme aujourd'hui. C'est défini pour 6 semaines. Il y a des soldes d'hiver, des soldes d'été. Et le seul moyen de le contourner, c'est les ventes privées. C'est-à-dire quand vous avez une carte de magasin où vous pouvez partir en solde avant les autres.
Et justement, Pierre Baron, comme les ventes privées marchent bien, le gouvernement a annoncé aujourd'hui qu'il réfléchissait à réduire les soldes à 4 semaines. Prochain chapitre à voir. En tout cas, nous, dans un instant, on va retrouver notre génial Aristide Boussicot. On vous raconte comment il a créé le premier grand magasin à la fin du 19e siècle. Et il existe toujours et il cartonne. A tout de suite sur RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Les soldes, c'est une histoire française imaginée au début du 19e siècle, au Petit Saint-Thomas, un commerce d'étoffes.
Thomas Hugues.
Les propriétaires créeront plus tard le célèbre Bon Marché.
Sidonie Bonnec.
Pour installer sa nouvelle collection, l'établissement décide d'organiser le déstockage des invendus.
Curieuse ? Curieux ?
L'opération a lieu 2 fois par an, le principe des soldes aînés.
Vous êtes chez vous, sur RTL.
Vous allez vous acheter deux, trois choses demain, l'occasion des soldes ?
Non, j'ai pas trop le temps, je travaille, désolée.
Il y a plein de gens qui travaillent et qui trouvent le temps de faire les soldes.
Oui, entre midi et deux, c'est pas facile, on a l'émission.
Moi, je sais déjà ce que je vais m'acheter, un jean noir et des nouvelles chaussures de foot, voilà.
Ah bah pas mal.
Les auditeurs s'en foutent, mais c'est
dit. Ah si, moi je vais acheter des vêtements pour ma fille, quelques vêtements pour ma fille.
Ah voilà, quand même. Et puis il y a ceux et celles qui vont utiliser Internet pour faire les soldes, franchement. Petite dédicace à l'ami André Facetta.
Alors, qu'on embrasse.
On raconte l'histoire, la fabuleuse histoire des soldes et des grands magasins avec Pierre Baron, notre consultant en histoire. Si on remonte un peu dans le temps, même avant Boussicot, avant Simon Manoury, etc., il y a une boutique qui est un peu l'ancêtre, si l'on peut dire, des grands magasins. C'est quoi ? C'est la mercerie dont on parlait tout à l'heure ?
C'est la mercerie, oui.
Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'on y trouve un peu de tout ?
Parce qu'encore une fois, les merciers ont un privilège qui est qu'ils peuvent vendre ce qu'ils ne fabriquent pas, contrairement à tous les autres commerçants.
Ah, parce qu'ils ne fabriquent rien, les merciers, en fait.
Ouais. D'où la formule un peu assassine de Diderot, vendeur de tout, faiseur de rien.
Ah, c'est dans son encyclopédie,
méchant,
c'est ça
vrai. Et donc, eux bénéficient de ce privilège. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont vendre de la joaillerie, de la quincaillerie, des franc-freluches. Et très vite, on va passer à des articles de mode qui étaient normalement le privilège des couturiers, mais qui va devenir, là, des articles tendance. J'insiste parce que ça va être crucial pour les magasins d'après, pour les grands magasins. Oui. La tendance, c'est la coiffure, c'est le ruban, c'est la ceinture, c'est tout ce qui fait la différence pour l'élégante de l'époque.
Mais on est à, dans quel, si on parle de taille de magasin, c'est pas encore des grands magasins.
Ah non, au 18e siècle, c'est des boutiques, c'est des échoppes. Oui. Par contre, il y en a une vingtaine dans Paris, hein, au moment, un peu avant la Révolution. Mmh. On ne parle que de ça. C'est pas compliqué, c'est 20 magasins. Les aristocrates et les grandes bourgeoises, mais surtout les aristocrates, ne parlent que de ce qu'on appelle des boutiques de mode. Ça s'appelle des, voilà, merceries qui sont là pour donner le ton. Mmh.
Et puis au XVIIIe siècle, une loi, la loi Le Chapelier, est abolie. Qu'est-ce que ça va provoquer? Qu'est-ce que ça va changer dans le commerce?
Bah, ce qui est vital, c'est qu'on va autoriser les merciers à vendre ce qu'ils veulent, mais aussi les autres. Donc ça va libérer le libre choix du commerce. Et puis, mine de rien, il y a un personnage fort, personnage haut en couleur de l'époque, qui est la couturière de Marie-Antoinette. Elle s'appelle Rose Bertin. Elle tient un magasin marchande de mode, comme on disait, dans cette vingtaine d'un Paris. Et alors elle aussi, dans le genre, elle n'est pas normande, mais elle est visionnaire. Hein. Elle invente la robe de grossesse, pas rien quand même. Elle invente la tenue champêtre pour les femmes. Et c'est surtout l'arbitre des élégances, y compris à la cour à Versailles, via la reine.
Est-ce que c'est ce qu'on appelait les marchandes de frivolité, il y avait ce mot-là?
Oui, c'est ça, exactement Thomas. Marchande de mode, arbitre des élégances et marchande de frivolité. Mais vous savez, à cette époque-là, la frivolité, c'était la règle. Je vous rappelle que les femmes se battaient parce qu'elles voulaient avoir la perruque à la Belle Poule. C'est ce que c'est la Belle Poule, c'est le nom d'une frégate qui avait battu les Anglais. Eh ben, les coiffeurs reproduisaient la maquette de la frégate sur la tête, les cheveux de ces dames. Ça s'appelait la coiffure à la Belle Poule. Et donc, l'élégance française, c'était pas un vin mou.
Mais ça, on n'a pas gardé, c'est bizarre. Comment et quand Aristide Boussicot va fonder ce qui va devenir le Bon Marché qu'on trouve au 24 rue de Sèvres aujourd'hui, dans le 7e arrondissement de Paris?
Il va le fonder, il va rester au chômage après la fermeture du petit Thomas, petit Saint-Thomas. Il va rejoindre, parce qu'il va faire la connaissance d'un des deux frères Vidot, en 1852-53, et son épouse Marguerite, elle n'est pas parfaite, elle est bourguignonne, mais ça arrive, elle a quelques économies, et avec ses économies, il va acheter des parts, il va s'associer. Pas devenir gérant, il va en fait prendre le pouvoir, mais il va être associé aux frères.
Donc il est associé du Bon Marché, qui à l'époque n'est qu'une échoppe, hein, on
oui,
est bien d'accord.
Oui, tout à fait, absolument. Petit. Pour situer, vous verrez les chiffres tout à l'heure, mais dans l'immédiat, qu'est-ce que c'est? C'est 12 personnes et 4 rayons. C'est minuscule. Enfin, je veux dire, à l'échelle d'un magasin, c'est une grosse échoppe, quoi. Et ça fait 200 mètres carrés.
Et donc, Boussicot voit plus grand. Comment, que veut-il faire et comment réagissent les frères Vidot?
Bah, Boussicot, il voit pas grand. Il voit océanique, si j'ose dire. Boussicot, il va, dans son esprit et très vite, avoir besoin d'un espace considérable pour vendre des milliers et des milliers de références. Mais pour ça, il a besoin de transformer complètement la vie de la femme. C'est-à-dire de faire d'un être humain cloîtré chez elle, dans son logis, qui était autorisé à sortir en toute décence uniquement pour aller voir belle-maman, le cimetière ou l'église. Il faut créer au Bon Marché un magasin où elle va y rester des heures et des heures, avec, pendant des heures et des heures, une envie frénétique de consommer et d'acheter.
C'est une manière de libérer la femme. C'est une des façons.
Et donc, vous allez nous raconter dans un instant comment les frères Vidot ont réagi face à ce projet océanique. A tout de suite sur RTL.
14h-15h. RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Les soldes commencent demain. Elles sont nées en 1830 au Petit Saint-Thomas, une boutique d'étoffe rue du Bac, dans le 7e arrondissement de Paris. C'est ce qu'on a appris avec notre consultant en histoire, Pierre Baron. Le Bon Marché, on raconte aussi l'histoire des grands magasins, évidemment. Et ça commence avec l'aventure du Bon Marché, qui est elle aussi une toute petite boutique dans laquelle va travailler Aristide Boussicot. Ce sont les frères Vidot qui tiennent cette boutique, mais Aristide Boussicot, lui, voit les choses en grand. Il a envie de tout exploser, de cartonner. Et qu'est-ce que ça donne envie de faire aux frères Vidot?
De s'en aller, très vite, parce qu'évidemment, ça, ils paniquent. C'est beaucoup trop gros pour eux, c'est beaucoup trop d'argent. Et pour que les rêves de Boussicot se réalisent, il lui faut un troisième Normand, qui est en réalité Maillard, Henri-François Maillard, qui est un pâtissier qui avait fortune à New York. Et c'est très important parce que Maillard va lui apprendre quelque chose de fondamental. Maillard a appris à vendre aux enchères, à New York, dans le quartier de Broadway, pour revendre en gros aux commerçants new-yorkais. Ça veut dire énorme volume de vente avec de petites marges de bénéfices. Et ça, Boussicot...
C'est nouveau ça, ouais.
Voilà. Il va croiser cette information essentielle de très gros volume de vente avec des marges faibles, avec tout ce qu'il avait appris chez Manori, c'est-à-dire les catalogues, la vente, etc., ce qu'on a vu avant. Mmh. Et c'est ça qui va faire la différence. C'est-à-dire que En gros, bon marché, on a les prix les plus bas de Paris. Les marges, elles sont à peu près à 13%. La plupart des commerçants, pas seulement dans le quartier, c'est minimum 45%. Évidemment, que vous soyez aristocrate ou femme du peuple, ça se voit assez vite. Et ce, d'autant que les prix sont affichés, ils sont indiqués. C'est pas comme le reste des magasins.
C'était quoi, la tête du client avant, c'est ça ?
Il y a plein de nouveautés là que vous balayez un peu rapidement, Pierre Baron. Donc, avant, comment ça marchait ?
Chez les autres magasins, dans les autres magasins, vous rentrez. Et ça marchande, tout simplement. Donc, effectivement, l'expression à la tête du client. Parce que, selon le marchandage, bah, vous obtenez tel ou tel prix. Là, c'est transparent, puisque le prix, il est indiqué. Il est là partout. Donc, il n'y a plus de tête du client. Tiens, puisqu'on en est aux expressions, il y a aussi la bosse du commerce. Parce que M. Boussicot était bossu. Et c'est de lui, à lui, qu'on doit l'expression la bosse du commerce.
Et donc, c'est lui qui crée le Bon Marché, qui existe encore aujourd'hui. On est en 1869. C'est Gustave Eiffel qui va construire ce magnifique édifice. Hein, si vous passez par la capitale, allez le visiter. Rien que pour l'architecture et la beauté,
oui,
du lieu.
C'est plus le magasin le moins cher du quartier, hein,
ça,
comme à
c'est
l'époque.
Vrai, hein. Ça a un peu changé. Alors, donc, il invente, Boussicot, les prix sur les étiquettes pour avoir les prix. Et aussi, ça nous semble dingue, nous on trouve ça normal, l'entrée libre. Allons bon.
Oui, vous rentrez librement, et non seulement vous y rentrez librement, mais tout est fait pour vous y restiez très longtemps. Il y a un billard, carrément, pour ces messieurs. Il y a, je sais, ça va paraître trivial, mais il y a des toilettes pour dames, ça n'existait nulle part. Si vous n'avez pas envie de jouer au billard et que vous accompagnez votre très cher ou votre officiel ou pas officiel, vous avez également des journaux et un buffet gratuit qui est mis à votre disposition.
Une bibliothèque.
Une bibliothèque. Ouais. Si vous avez des enfants, on parlait tout à l'heure des ânes, là, on donne des petits cadeaux, des images, des ballons aux enfants pour qu'ils aient envie d'aller. Ils sont prescripteurs, Boussicot l'avait compris, pour donner envie aux mères de famille d'emmener leurs enfants.
Boussicot qui sera aussi, on va terminer là-dessus, précurseur en matière sociale. Pourquoi ?
C'est colossal. Bien avant la sécurité sociale, il crée un fonds de prévoyance pour ses salariés. Il fait, pour toute personne, tout salarié, tout employé du Bon Marché qui a plus de 20 ans d'ancienneté, il crée un fonds de retraite. Je rappelle quand même qu'on est il y a 150 ans. Il crée le dimanche fermé. Payé, c'est un jour payé et non ouvré. Je rappelle qu'il faudra attendre 1906 pour que ce soit généralisé par la loi, le dimanche non travaillé. C'est aussi quelqu'un qui intéresse ses employés aux bénéfices. Il leur donne des commissions. Il leur fait la cantine gratuite. Bien sûr, il était très autoritaire, parce que rien n'est parfait dans ce bas monde. Et ses employés l'appelaient quand même le juste, parce qu'il était dur, mais il était plutôt proche d'une promotion par le mérite que par l'ancienneté.
Merci.
D'un mot, il va profiter longtemps de ce succès. D'un mot, vraiment, Pierre Barre.
Non, pas trop. Mais il y aura quand même 20 000 personnes à son enterrement. C'est quand même pas rien. Tous ses employés, ils étaient 2 000 à la fin. Et le peuple de Paris, surtout les femmes, qui étaient venues lui rendre hommage jusqu'au cimetière Montparnasse.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Pierre Baron. On vous retrouve bientôt sur France 5, dans votre série documentaire avec Laurent Deutsch. Vous reviendrez nous en parler.
Vous écoutez RTL.